Cher Michel, merci pour ces mots d'accueil extrêmement chaleureux. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, très heureux de vous retrouver dans cette belle assemblée. Cher Olivier, tu vas mettre en route... voilà, c'est ça. Et donc, petit mode d'emploi peut-être. D'accord. Ah, c'est magnifique. Super. Très, très bien. Bon, je suis vraiment très heureux de vous retrouver. Je voudrais vous dire, comme à chaque fois lors de nos derniers colloques, que c'est pour moi une grande émotion de voir tous ces visages qui prolongent la pensée de mon père. Et je sais votre fidélité, je sais combien il a pu vous marquer. Votre présence est un témoignage magnifique et vraiment très émouvant pour moi. Alors aujourd'hui, je vous ai proposé je vous propose ce titre, l'attention entre le volontaire et l'involontaire. Il y a des petits mots ici, ne vous inquiétez pas, c'est peut-être fait justement pour vous distraire. Et justement, j'ai envie de vous distraire dès le départ, j'ai envie de détourner votre attention, j'ai envie de jouer avec vous si vous me permettez. Donc, commençons. Voici une phrase. Ainsi, le pan de rideau est le lieu de l'inventaire de l'esprit. Je répète. Ainsi, le pan de rideau est le lieu de l'inventaire de l'esprit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand je suis en train de dire « je répète », ça pourrait vous faire penser au message que Radio Londres envoyait à destination de la résistance, message codé. Alors oui, il s'agit ici d'une phrase surréaliste à souhait. C'est une phrase, en fait, si vous voulez, que je vous propose pour vous distraire et pour détourner votre attention de l'objet de mon intervention. C'est une phrase, comme vous pouvez le voir, qui a été écrite par Antoine de la Garandrie dans la pédagogie des moyens d'apprendre. Alors, c'est vrai que vous pouvez vous interroger, qu'est-ce qu'il avait en tête, Antoine de la Garandrie, là ? Quelles étaient ses intentions de signification ? Que cherchait-il à démontrer ? J'ai envie de vous dire, nous allons pour l'instant garder l'esprit libre, justement. Nous n'allons pas chercher, si vous voulez, à encombrer cette phrase de toutes nos intentions de signification. Nous n'allons pas chercher à enfermer le réel dans des catégories de la pensée. Il faut justement que nous soyons attentifs. Non pas attentifs, excusez-moi, non, il faut que nous soyons justement dans un état de disponibilité à l'égard de cette phrase. Laissons-la respirer. Laissons cette phrase respirer. Et voyez-vous, je vous dirais qu'on se trompe si l'on considère que l'attention a horreur du vide. Alors, justement, nous avons besoin de faire respirer cette phrase. Je reprends le fil de mon discours. Et cette phrase, il faut la laisser respirer en tant que telle. Alors, pourquoi est-ce que j'appelle ici cette phrase surréaliste ? Qu'est-ce qui me permet de dire qu'il s'agit d'une phrase surréaliste ? En fait, il se trouve ici associé deux éléments hétéroclites, hétérogènes, un élément matériel, le pan de rideau, et un élément immatériel, l'esprit, quoique cet esprit se livre à un inventaire, ce qui peut nous sembler quelque peu étrange. Eh bien, voyez-vous, cette association d'éléments hétérogènes favorise, suivant les surréalistes, suivant les Bretons, les Aragons, les Soupaumes, favorise justement la rencontre du réel et de l'imaginaire, permet de constituer un point de surréalité. Et on pourrait peut-être penser qu'ici, Antoine de la Garandrie s'est livré à un exercice d'écriture automatique, vous savez, comme les cadavres exquis, et nous pourrions peut-être prolonger les phrases d'Antoine de la Garandrie. Alors, en même temps, cette phrase d'Antoine de la Garandrie peut nous faire penser à une autre phrase de Lautréamont, grand poète, qui, dans les chants de Mal d'Aurore, a écrit « Beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'un parapluie et d'une machine à coudre. Ainsi, le pan de rideau est le lieu de l'inventaire de l'esprit. » Nous avons quelque chose ici de similaire. Et les surréalistes aimaient beaucoup ce vers de Lautréamont parce que, justement, il nous mettait dans un état de distraction. Donc, les surréalistes, si vous voulez, aimaient se mettre dans un état de distraction, sans préméditation, sans chercher à anticiper quoi que ce soit. Ils le faisaient pour mieux accueillir le hasard, l'inattendu, l'insolite, l'étrange, l'insolite du réel. Breton aimait se laisser conduire par la femme rêvée dans les rues de Paris, par Nadia, au hasard, des rencontres, à la découverte de lieux inattendus. Eh bien moi, je crois, si vous voulez, que les surréalistes, là, ici, nous interrogent, et je pense que, la phrase Antoine de la Garandrie est surréaliste en tant que telle, car, justement, les richesses du réel, pour être... Je vais continuer comme ça, je vais parler plus fort possible, parce que c'est... Les richesses du réel, en fait, pour être dévoilées, exigent des états de distraction. Il faut se mettre dans des états de distraction, dans des états de disponibilité. Et mon hypothèse de recherche est donc la suivante. La distraction et l'inattention ne sont-elles pas nécessaires à l'acte même d'attention? En définitive, en voulant, voyez-vous, vous distraire avec la phrase d'Antoine de la Garandrie, ainsi le pan de rideau est le lieu de l'inventaire de l'esprit, j'essaye de vous rendre plus disponible afin de mieux accueillir notre sujet de réflexion qui est l'attention entre le volontaire et l'involontaire. Alors ça, c'était une mise en bouche, un apéritif que je souhaitais justement vous proposer, détourner votre attention. Et je vais aujourd'hui vous proposer deux temps de réflexion. Un premier temps où je vais chercher à vous montrer pourquoi l'intention est un tremplin, l'inattention, excusez-moi, est un tremplin pour l'attention. Et dans un deuxième temps, je serai dans une perspective plus pratique et concrète, concrètement, finalement, comment vivre cette inattention. Alors, vous voyez que dans le titre, l'attention entre le volontaire et l'involontaire, je fais appel en fait à deux termes qui sont difficiles, aux significations multiples. Et je crois qu'il faut que nous arrivions à nous entendre, quoique au fur et à mesure je vais préciser le sens à la fois théorique mais concret, vécu, de ces deux notions. Peut-être que l'on pourrait, pour vous mettre en appétit et vous donner une première perspective, peut-être qu'on pourrait dire que le volontaire désigne l'intentionnalité, les visées de sens. Et l'involontaire serait plutôt le signe d'une détente, éventuellement, ou la marque d'un inconscient qui serait à l'œuvre, un malgré-moi qui agirait en moi. Alors ce sont là des possibilités qu'on va prendre en considération, mais sachez pour l'instant que l'usage de ces deux termes, l'involontaire et le volontaire, font signe ou font référence au grand texte d'un philosophe français qui s'appelle Paul Ricoeur et qui a écrit justement comme premier tome de sa philosophie de la volonté, Le volontaire et l'involontaire. Et je choisis exprès cette référence parce qu'il s'agit d'un livre qui a particulièrement marqué Antoine de la Garandrie. Je me demande d'ailleurs si dans la motivation en exergue, ici la gardienne des œuvres d'Antoine de la Garandrie, elle ne va pas aimer du tout cette référence. Odile pourrait me dire si au début de la motivation, il n'y a pas cette... Non, tu préfères rester dans un état de distraction et de disponibilité. Tu as raison, tu as tout à fait raison. Donc, le volontaire, en fait, est l'expression de mon vouloir. Il renvoie à ce que je décide, au projet que je forme. Et il faut savoir d'ailleurs que toute volonté, tout acte volontaire, se donne un imaginaire d'avenir. Par avance, la volonté essaye, si vous voulez, ses possibilités d'action. Ça, c'est un point important pour Paul Ricoeur. Et il faut que vous compreniez aussi que l'acte volontaire ne se réduit pas simplement à la simple exécution d'une tâche, mais qu'il est traversé, cet acte volontaire, par des intentions ou des visées, qu'il est traversé, cet acte volontaire, par une délibération, mais quel moyen vais-je utiliser pour réaliser cette visée, qu'il comporte aussi le moment de la décision, le choix. Donc il y a ces moments-là, avant même qu'il y ait l'exécution en tant que tel. Et donc le volontaire, voyez-vous, participe à la constitution de mes projets de sens au travers de ses intentions, délibérations, etc. dans ces différents temps de l'acte volontaire que j'ai pu évoquer, que j'ai pu citer ici, ici tout un ensemble de réalités qui échappent à ma décision, à mes intentions, à mes visées de sens. Finalement, pourquoi est-ce que j'ai telle intention à tel moment ? Est-ce que cela ne relève pas d'habitudes mentales que j'ai pu acquérir et qui fait que j'aime avoir tel type d'intention ? Est-ce que ce n'est pas telle réalité extérieure ? Est-ce que ce ne sont pas les formes de l'objet du savoir qui me déterminent ? Pourquoi est-ce que je délibère de telle façon ? Est-ce que ce n'est pas dû à mon tempérament, à ma complexion psychique, etc. ? Par conséquent, l'existence du réel extérieur m'impose ses contraintes, et en même temps, les forces et les caractéristiques de mon corps, mes habitudes intellectuelles aussi, m'orientent dans mes choix et peuvent décider malgré moi. Il y a donc toute une part d'involontaire qui est au cœur, voyez-vous, de mes actions volontaires. Pourquoi ? Parce que mon vouloir n'est pas un pouvoir de créer à partir de rien. Je ne peux pas faire surgir l'être du néant. Il me faut composer sans arrêt avec toutes ces réalités, à la fois extérieures et intérieures, qui me débordent et qui me font être en même temps. Alors c'est pour ça, c'est dans cette perspective que Paul Ricoeur a pu écrire, je suis tout content de la technique, dans le volontaire et l'involontaire, il y a, alors excusez-moi, là c'est le guillemet devrait intervenir ici, il y a de l'inévitable, de l'involontaire absolu par rapport à la décision et à l'effort. Donc, je veux ce que je veux depuis les forces vives du réel, depuis mon corps, avec ses organes, avec ses muscles, avec son tempérament, depuis mon esprit, avec ses habitudes de pensée. Et donc, cela signifie qu'en chaque volonté, il y a une part primordiale de passivité. C'est ça l'involontaire. Et il faudrait même aller un peu plus loin, ça va être l'un des objets de ma réflexion, de nouveau rupture. Le vouloir, en fait, s'il veut se rendre effectif, il doit consentir, et consentir aux forces vives du réel. Il s'agit en fait d'accepter de composer avec les données de mon environnement, avec mon organisation vitale, avec mon tempérament. Il faut consentir, finalement, pour agir, il faut consentir à ce qui me détermine à être. Je me permets ici une sorte d'excursus je fais référence à Stanislas Dehaene, vous savez, ce professeur de psychologie cognitive, qui est professeur au Collège de France, qui, d'ailleurs, sa leçon inaugurale au Collège de France, qui date de 2006, s'intitule « Vers une science de la vie mentale ». Alors, sachez d'ailleurs que ce n'est pas exactement la même définition que Antoine de la Garandrie pouvait donner de la vie mentale, mais y a là, des relations à établir, me semble-t-il. Alors, pourquoi je vous parle de Stanislas Dehaene ? Parce que dans son dernier ouvrage, « Le Code Conscience », un ouvrage qui est paru l'an dernier, il estime en fait qu'il y a toute une panoplie de processus mentaux qui peuvent se déclencher sans conscience. À notre insu, alors ce sans conscience, qu'est-ce que ça signifie ? À notre insu, des opérations cognitives se produisent. Et il écrit d'ailleurs, je le cite, « Une part au moins de ces opérations se déroule inconsciemment et peuvent être guidées par des stimuli invisibles. » Sans conscience veut donc dire ici ce qui échappe à notre contrôle, ce qui ne relève pas d'une décision volontaire, ce qui n'est pas le fruit d'une intentionnalité, d'une visée de sens explicite. Et Stanislas Dehaene même utilise l'expression de boîte à outils de l'inconscient, cette boîte à outils de l'inconscient qui n'est pas localisée en un seul lieu du cerveau, mais qui est localisée dans toutes les aires cérébrales et qui opère ces aires, cette boîte à outils de l'inconscient qui opère sur un mode non conscient. Il y a donc pour lui tout un travail, de travail neuronal qui se caractérise par sa spontanéité. Le cerveau de lui-même prend des initiatives, corrige nos erreurs de perception ou d'attention, rend possible notre adaptation au monde. Et notre connaissance du réel dépend incontestablement de nos réseaux neuronaux, de cet inconscient cérébral qui opère dans l'ombre, qui n'est pas accessible là par introspection. Et cela laisse bien entendre finalement que nous ne sommes pas pleinement maîtres et possesseurs de nos opérations cognitives. C'est l'idée, si vous voulez, qu'on pourrait retenir. Il y a de l'involontaire, donc, à l'œuvre. Depuis notre corps, nous ne dirigeons pas tout. Donc, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de lâcher prise, quelque peu, d'être dans le relâchement, d'imaginer que tout ce que nous pouvons connaître ne relève pas uniquement d'une visée consciente, qu'il y a des choses qui échappent à notre contrôle immédiat. Alors, voyez-vous, ce travail inconscient du cerveau, ici, il nourrit incontestablement notre réflexion, et c'est pour ça que je me suis autorisé cet excursus. Il y a bien des forces de la matière et du corps, en fait, pour Antoine de la Garandrie, qui sont à l'œuvre, en nous, et auxquelles il faut consentir. Et ce consentement à l'involontaire requiert pour Antoine de la Garandrie une pédagogie. Apprendre à consentir pour ne pas être immédiatement dans une attitude de conquête lorsque nous sommes attentifs. Voyez-vous, ainsi le pan de rideau est le lieu de l'inventaire de l'esprit. Vous voyez que j'aurais pu vous laisser davantage de temps, etc. Mais je reconnais ça. Mais vous voyez que je n'ai pas cherché à donner une détermination, quoiqu'à un moment donné, je vais chercher à signifier cette phrase. Donc apprendre ce consentement-là, apprendre à consentir pour ne pas s'installer dans une tension musculaire insupportable, il faut que je sois attentif. Apprendre à consentir pour faire en sorte justement que l'être humain ne se rende pas prisonnier des impératifs de l'effort et de cette pédagogie de l'effort. Et c'est pour ça qu'Antoine de la Garandrie utilise dans la pédagogie des moyens d'apprendre cette très belle formule qui est le souvenir d'oubli. Le souvenir d'oubli. C'est une formule qui demande une explication à venir, elle interviendra, mais qui laisse déjà entendre ceci par l'usage même du terme d'oubli, qui laisse entendre la nécessité de laisser être dans l'ombre différentes données, ou encore qui appelle la nécessité d'une suspension de notre volonté de signification. Suspendons notre volonté, notre vouloir de signifier. Par conséquent, il ne s'agit pas d'être immédiatement dans une quête d'objectivité. Il ne s'agit pas de vouloir immédiatement de déterminer les significations du réel. Justement, consentir à l'involontaire, est-ce que ça ne permet pas de donner vie à un climat de familiarité entre mon être et le réel? Alors si oui, il faut reconnaître que dès l'acte d'attention, finalement, cette pédagogie du consentement doit être mise à l'œuvre, en fait. L'acte d'attention, c'est l'acte par lequel je me familiarise avec mon monde, notamment. Cet acte d'attention requiert justement un consentement à l'involontaire. Et ce faisant, ça c'est un point pour moi important, c'est que l'acte d'attention n'est pas un acte mineur, en fait. Déjà, si vous voulez, on se met en disponibilité par l'acte d'attention. Et c'est ça ce qui va rendre possible un plus grand éveil à la connaissance, c'est ce qui va rendre possible un meilleur développement. Plus on sera dans cet état de disponibilité, plus finalement nos actes cognitifs seront riches en tant que tels. Donc, l'acte d'attention n'est pas un acte mineur, uniquement au service d'autres actes d'attention. Alors je sais que c'est une chose qu'aujourd'hui on ne fait plus, mais il y a une vingtaine d'années, quand on organisait des stages en gestion mentale, il y avait toujours l'acte d'attention, vous voyez, c'est le projet d'évoquer la chose perçue, etc. Ça y est, bon, maintenant on passe aux choses sérieuses, la mémorisation, la réflexion, etc. D'ailleurs, en général, dans ces stages, on n'avait plus assez de temps pour étudier la créativité, qu'on mettait aussi quelque peu entre parenthèses, sachant d'ailleurs que la créativité est grandement à l'œuvre dans l'attention, ce que je n'aurais pas malheureusement aujourd'hui l'occasion de développer. Mais je vous dis tout ça parce qu'il faut permettre à l'acte d'attention d'occuper tout son espace. parce que c'est justement l'acte d'attention à son propre champ d'expérience, en fait. L'acte d'attention à ses propres intentionnalités, l'acte d'attention à sa créativité, car il y a de la créativité à l'œuvre, justement, dans l'acte d'attention. Je sais qu'Armel, ici présente, tient beaucoup à cette idée, et je la rejoins à 375%. Et il a aussi cet acte d'attention, ces mouvements de signification. Et il est un intermédiaire entre le volontaire et l'involontaire. Il rend visible l'acte d'attention, comment s'opère la rencontre vive entre mon être et le réel, entre mon être et le monde. Et cette rencontre est tissée justement de visées inconscientes et de forces de visées conscientes, pardon, et de forces inconscientes. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'involontaire dans l'attention? Soyons un peu plus précis. Qu'est-ce qu'il y a d'involontaire dans l'attention? Alors, devant une telle question, marquons notre étonnement. Pour deux raisons. Tout d'abord, l'attention est habituellement définie comme suit. L'attention est une tension de l'esprit vers un objet à l'exclusion de tout autre. On ouvre un dictionnaire, on trouve ça. La tension de l'esprit vers un objet à l'exclusion de tout autre. Et dans cette détermination de l'attention, on découvre tous les ingrédients de la concentration. Et on imagine le visage d'un être en tension, les traits contractés, les yeux grands ouverts, à tel point d'ailleurs, comme aimait le dire Antoine de la Garandrie, qu'il est sans doute plus attentif au fait d'être attentif qu'à l'objet qui requiert son attention. Et ce que je n'aime pas dans cette définition, c'est qu'on trouve l'idée d'une exclusion, il y a une sorte d'exclusivité, il y a une centration exclusive sur un objet et une tension volontaire extrême. Alors, il faut détendre l'attention, justement. Il faut sortir, voyez-vous, l'attention de cette ornière de concentration et d'exclusivité sur un objet. C'est faux. Quand je suis attentif, même si c'est par rapport à un objet de savoir particulier, en réalité, je ne suis pas seulement attentif à cet objet de savoir en particulier. Et tout à l'heure, dans mon deuxième temps critique, je vous proposerai un exemple qui rend compte justement de cela. Alors ça, c'est la première raison qui pourrait expliquer notre étonnement. Mais non, mais dans l'attention, il n'y a pas d'involontaire. C'est de la concentration. Et deuxième raison, c'est qu'on détermine aussi très souvent l'attention comme une mise en garde. Excuse-moi, je suis un peu distrait, Pierre-Paul, mais cette machine est pour moi très impressionnante, là.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est Michel qui m'a demandé de...
Mais c'est la forme, etc. C'est la première fois que je vois. C'est pas le fait qu'elle soit là.
L'objet lui-même, voilà. Oui, tout à fait. Oui,
c'est un... me surprend.
Un petit machin professionnel.
C'est magnifique, c'est superbe. Merci, Pierre-Paul. Donc... Oui, c'est un petit moment de déconcentration, là, ça fait du bien, justement, on se repose, on détend l'esprit, une sorte d'hygiène de l'esprit. Là, est-ce que ça ne serait pas ça, l'inventaire de l'esprit, justement, une hygiène de l'esprit? Alors, oui, la deuxième raison, c'est que, là, qu'est-ce que l'on dit à propos de l'attention? On dit, fais attention! Oh là là, prends garde! Il va t'arriver des malheurs! Sois prudent! Et là, il y a toute une injonction qui annonce un danger, qui réclame une vigilance particulière. Être attentif, ça suppose une conscience vigile qui doit rester en alerte pour ne pas se laisser surprendre par le réel, hein, se tenir sur ses gardes. Et ça confine pour moi à une sorte de mécanisme, là, justement. On se tient sur ses gardes, on s'entraîne à cela pour être capable de réagir aux impératifs du réel. Voilà, je suis là. Et là, l'attention n'est pas vécue comme une pro-action, mais comme une réaction. C'est une réponse à une sollicitation, justement, du réel. Alors, on peut estimer que la première définition que j'ai proposée de l'attention insiste, en fait, sur la capacité d'un sujet à se centrer sur un objet, comme s'il était possible pour ce sujet de dominer cet objet. Et la seconde définition met plutôt en évidence la soumission du sujet à l'égard du réel. Il doit s'en préserver, voire s'en protéger. Et dans les deux cas, de mon point de vue, il y a un déséquilibre entre la conscience et le réel, qui ne favorise pas, justement, ce déséquilibre, l'expression d'un acte d'attention libre. Et il y a d'autres formes d'attention à prendre en considération. Il me semble, et j'ai envie de vous démontrer cela, que l'attention ne se nourrit d'une relation harmonieuse entre mon être et le réel. Alors, l'acte d'attention, en fait, est l'expérience d'une attente qui concerne les potentialités du réel. Je suis dans l'attente de faire vivre les richesses du réel qui se manifestent à moi à travers mes sensations, à travers mon activité perceptive. Et j'ai même une foi dans le réel, j'ai confiance dans le réel à me fournir des ressources de connaissances. Et je vais dans cet état de disponibilité. L'acte d'attention est aussi un geste d'espérance. Car en m'engageant dans l'acte d'attention, j'espère en mes capacités cognitives. J'espère pouvoir signifier ce réel qui se manifeste à moi, qui se présente à moi dans l'acte d'attention. Et enfin, l'attention, c'est le fait aussi de prendre en considération quelqu'un ou quelque chose. Être attentionné, merci, c'est prendre soin, pardon, c'est être précautionneux, c'est agir avec douceur et délicatesse. Alors, considérons en définitive que l'être humain doit faire preuve de soin dans la conduite même de l'acte d'attention, en évitant toute précipitation, en ne cherchant pas à le réduire à un acte de pure concentration. Il faut libérer l'attention de l'attention. L'attention L apostrophe et plus loin de l'attention LA, plus loin TEN, etc. Bien. C'est un jeu de mots, cela dit, qu'Antoine de la Garandrie, un jeu de mots, oui, je ne sais pas si. Oui, c'est une sorte, on joue avec les mots, qu'Antoine de la Garandrie aurait beaucoup aimé. Hein, il adorait ce genre de. Ce genre d'expression. Donc, comment ouvrir, si vous voulez, l'attention aux ressources de l'inattention? Alors, vous voyez, on retrouve bien notre hypothèse initiale, à savoir que l'inattention est un tremplin, justement, pour l'attention, et le pan de rideau est le lieu de l'inventaire de l'esprit. L'inattention requiert l'expérience, finalement, d'une mise entre parenthèses. Je ne vais pas vous embarrasser avec de la technique philosophique, mais les phénoménologues parleraient ici d'une épopée. Hein, on met entre parenthèses. Qu'est-ce qu'on met entre parenthèses? Eh bien, on met entre parenthèses, par exemple, notre esprit de conquête du monde extérieur. Apprendre à se retenir, justement, dans l'acte d'attention, pour accueillir sans présupposer le réel. Parfois même, peut-être, se laisser conduire par le réel. Et allons un peu plus loin aussi. Accepter la possibilité du vide et de l'ennui pour laisser les ressources du réel se rendre manifestes. Proposons ainsi à l'être humain l'expérience d'une inhibition, mettre hors jeu tout un ensemble de croyances que nous avons à propos du réel dont il nous faut être attentifs. Suspendons donc la validité de tout un ensemble de significations que nous accordons habituellement aux choses de notre environnement. Voilà. Reconfigurons finalement notre regard sur les choses après l'avoir nettoyé. Il est vrai que nous avons pris et nous prenons à tout instant des habitudes de signification qui nous interdisent en fait de regarder le réel tel qu'il est. Nous perdons peu à peu notre capacité d'étonnement devant ce qui est. Et il s'agit de rapprendre à voir le monde en se laissant distraire par lui. Justement, le pan de rideau qui orne les fenêtres de la classe me détourne, certes, de la leçon écrite sur le tableau, mais est-ce que ce détournement n'est pas salutaire, en fait? Est-ce que ce moment d'inattention qu'a l'élève n'est-il pas salutaire pour favoriser une hygiène de l'esprit, pour permettre à l'esprit de se vider? On peut estimer que ce détournement que fait l'enfant dans une classe, ou l'élève dans une classe, est involontaire, que l'élève se laisse distraire malgré lui par les à côté du cours. En même temps, La tension requise pour suivre la leçon demande une telle énergie que l'esprit, à un moment donné, a besoin de faire le vide. Il faut se divertir, se détourner, car l'esprit n'est plus réceptif devant un trop-plein d'informations. Il s'épuise dans une attention soutenue. Il arrive bien souvent que l'être humain se présente, comme je le disais il y a quelques instants, devant n'importe quelle réalité avec ses savoirs et ses représentations. Il cherche à identifier telle réalité à partir de ce qu'il connaît. Et il est comme dans l'empressement à combler le vide. Il croit que l'attention a horreur du vide. Et il ne laisse aucune chance au silence. Merleau-Ponty, autre grand philosophe, a pu expliquer ceci dans un très beau texte qui s'intitule « Le visible », texte difficile, texte composé de notes, dans « Le visible et l'invisible ». Il a montré que la philosophie, finalement, dans son apprentissage à voir le monde, car qu'est-ce que c'est qu'être philosophe ? C'est apprendre et rapprendre sans cesse à voir le monde. Que la philosophie évite d'enfermer le réel dans des énoncés, dans des paroles, dans des discours. Et pour ce faire, elle feint d'ignorer le monde. Elle fait comme si elle ne connaissait pas le monde. Elle suspend, voyez-vous, les significations qu'elle peut donner au monde. Et Merleau-Ponty a cette très belle phrase qui, à mon avis, nourrit notre réflexion sur l'attention, extraite donc du visible et de l'invisible. « Ce sont les choses mêmes du fond de leur silence ». Qu'elle, c'est pour la philosophie, que la philosophie veut conduire à l'expression. Peut-être que pour l'enfant, c'est la même chose, hein. Ce sont les choses même du fond de leur silence que l'enfant veut conduire à l'expression, pour se placer sur le terrain de la pédagogie en tant que telle. Dans la critique de la raison pédagogique, Antoine de la Garandrie se méfie de la notion de représentation. Il met en évidence, pour lui, qu'est-ce que c'est que la représentation ? La représentation, désigne tout un ensemble de savoirs constitués, ce sont les représentations que nous avons, voire les représentations collectives qui s'imposent aussi à nos représentations individuelles. Donc ce sont des savoirs constitués que l'être humain, ces représentations, que l'être humain acquiert par sa culture, par son éducation, etc. Et il se sert de ces représentations pour désigner les choses du monde. Ça ne lui va pas, parce que, voyez-vous, ça ne permet pas pour Antoine de la Garandrie d'être au monde. Et il écrit ceci, j'aurais pu faire aussi une diapositive avec cette citation, je lis ce qu'il écrit donc, dans « Critique de la raison pédagogique », vous trouverez ça au chapitre 7. « Si connaître, ce n'est pas être la chose. Si connaître, c'est simplement dire. Imaginez ce que sont les choses. L'homme n'est plus au monde. Il est soumis à une idée du monde, qui est celle que la société, les hommes qui la représentent, lui donnent. On tombe dans l'arbitraire. On tombe dans l'arbitraire. Or, pour vivre l'attention, il s'agit pour l'homme d'être au monde. Il s'agit d'établir une relation de ressourcement, dit-il, au contact de la chose. Voilà. Situation, une relation de ressourcement au contact de la chose. Se déprend en quelque sorte de notre volonté de conquérir le réel, ou encore se souvenir d'oublier. Et ça, si vous voulez, pour Antoine de la Garandrie, c'est ce souvenir d'oublier est à la source des projets de sens multiples de l'attention. Pourquoi y a-t-il esprit de conquête du point de vue d'Antoine de la Garandrie ? Et pourquoi nous enfermons l'acte d'attention dans cet esprit de conquête ? Parce que nous craignons, nous avons peur, dit-il, de l'angoisse du vide. On demande à un enfant d'être centré sur un objet, une activité, un projet d'activité. On veut que d'emblée, il soit mis dans une visée de signification. Attention, tu vas regarder là, parce qu'il va falloir que tu comprennes ça, et ça va être pour mémoriser, il va falloir que tu te comportes de telle façon, etc. Ça rigole pas, si vous voulez. Finalement, peut-être que nous redoutons que l'enfant puisse nous dire « je m'ennuie, et alors ?» Il s'ennuie, peut-être, et pourquoi pas. Il serait alors confronté à un vide de pensée, un vide d'activité. c'est vrai que cette expérience du vide se révèle parfois traumatisante, et c'est ce qui explique d'ailleurs Blaise Pascal, voyez-vous, dans ses pensées, quand il dit « Ennui, rien n'est plus insupportable à l'homme que d'être dans un plein repos, sans passion, sans divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son propre néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. » Oui, c'est vrai. Et derrière ça, d'ailleurs, il y a le risque de l'angoisse, indéniablement. Antoine de la Garandrie, d'ailleurs, montre bien que l'angoisse diffère de la peur. La peur, justement, est peur de quelque chose. Et d'ailleurs, j'ai peur de cette angoisse du vide, j'ai peur d'une chose. Alors que l'angoisse, elle est sans objet, elle renvoie au vide. Cette angoisse survient au moment d'inoccupation, ou peut-être d'inattention, justement. C'est vrai qu'elle peut, l'angoisse peut donner lieu à des troubles psychologiques, à des sensations désagréables, mais elle peut aussi, l'angoisse, pour Antoine de la Garandrie, en tout cas, s'avérer féconde. Et c'est ce qu'il explique, justement, dans renforcer l'éveil au sens. Il montre bien que la peur de l'angoisse témoigne d'un refus de se confronter aux potentialités infinies de l'attention. L'acte d'attention va nous ouvrir à des potentialités infinies. Certes, il y a un vertige de l'infini, il y a un rien peut-être qu'il va falloir investir, occuper, peut-être pas tout de suite et d'emblée, incontestablement, mais il y a des potentialités infinies qu'il s'agit de découvrir. Il y a des promesses de l'angoisse. Donc il faut faire en sorte, pour Antoine de la Garandrie, d'affranchir l'angoisse de la peur. Il écrit, donc, dans « Renforcer l'éveil au sens », « La peur a toujours pour cause une finitude, l'angoisse a pour objet affectif l'infini. » Alors je ne vais pas pouvoir complètement aujourd'hui développer cette relation entre l'attention et l'infini, qui est pour lui une relation importante. Je vous renvoie juste à cette phrase que vous pouvez retrouver d'ailleurs à la page 33 de renforcer l'éveil au sens. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une pédagogie de l'ennui à proposer à partir de là? L'ennui, finalement, a des fécondités. L'ennui est l'expérience d'un repos de l'esprit, qui n'est plus prisonnier d'un esprit de conquête. Et dans les pages admirables du troisième chapitre de La valeur de l'ennui d'Antoine de la Garandrie, chapitre qui s'intitule L'éthique de la tempérance, Antoine de la Garandrie en appelle à une conversion de la vie affective, une véritable révolution copernicienne où il s'agit pour l'homme, au travers de l'ennui, de découvrir les richesses de la vie sensible et les richesses même de ma sensibilité capable d'accueillir le monde et les potentialités infinies qui sont dans le monde. Et il écrit d'ailleurs, ça j'ai noté, voilà. Mais si le vouloir se fait ennui, si il décide de dévaloriser par son emploi tout ce qui risquerait de détruire son originalité, ne va-t-il pas s'éveiller à des valeurs insoupçonnées? Et il y a peut-être, voyez-vous, des valeurs insoupçonnées à découvrir par cet acte d'attention qui justement n'est pas porté par un esprit de conquête qui consent à de l'involontaire. Il y a des valeurs insoupçonnées à la fois de l'acte d'attention lui-même, mais aussi du réel lui-même, mais aussi de mes capacités cognitives. Il s'agit donc d'élargir le clavier de la sensibilité. On trouve ça à la page 48 de ce très bel ouvrage que j'aimerais que cet ouvrage d'ailleurs soit publié de nouveau, parce que c'est un texte magnifique qui a obtenu d'ailleurs un prix de l'Académie française en 1900, le prix Motion, en 1968. Alors, autrement dit, arrêtons de vouloir soumettre le réel aux ordres de notre volonté. Acceptons que l'esprit puisse vagabonder, en fait. Certes, je m'ennuie. Certes, je ne sais pas sur quoi me fixer. Certes, j'expérimente le vide de l'attention, mais je libère en même temps mon esprit de nombreuses pensées encombrantes. Je récupère, à partir de là, des disponibilités sensibles, affectives, intellectuelles, en ne cherchant pas d'emblée à capturer le réel et à vouloir le signifier à partir de tout ce que je sais. Et c'est en ce sens que l'ennui a une fonction cathartique pour Antoine de la Garandrie. l'ennui, là, nettoie, il utilise même l'expression d'hygiène mentale. Il permet l'ennui, il permet à l'esprit de faire son inventaire. Il permet à l'esprit de faire son inventaire. Le pan de rideau est le lieu de l'inventaire de l'esprit. Je me permets un autre petit excursus ici. Dans la salle, et pardon, je ne vais pas mettre la lumière sur elle, il y a ma charmante fille Pauline qui se trouve quelque part ici et qui était très embarrassée, voyez-vous, parce qu'elle disait « Mais papa, parfois j'ai des difficultés de concentration. Mon esprit saute, etc. Pourquoi ?» Et puis je lui ai dit cette phrase. Ainsi, le pan de rideau est le lieu de l'inventaire de l'esprit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle a été étonnée, d'ailleurs, parce qu'elle aime, voyez-vous, être surprise, étonnée. Elle a été étonnée, et elle m'a dit, mais en fait, je donnais une explication possible, et en fait, ça m'a libéré, ça m'a désangoissé. Je me suis dit, après tout, ce n'est peut-être pas, ce n'est pas un moment négatif pour moi que de détourner pendant un temps mon attention d'un coup. Ça me permet de retrouver de l'oxygène, finalement, de respirer mieux. Alors, nous avons ainsi à proposer une pédagogie de l'inattention ou de la distraction. Il s'agirait d'une certaine façon de vouloir l'involontaire. Mais ça serait ici, si vous voulez, je dis vouloir l'involontaire, dire « Ah, vous remettez de la tension encore, vous êtes insupportable ». Non, non, il s'agirait en fait d'une volonté relâchée, comme l'expérience d'un consentement, une sorte d'inhibition choisie. Et je crois que, justement, l'idée d'une inhibition choisie renvoie à cette expression que j'ai déjà citée plus d'une fois aujourd'hui, qui est le souvenir d'oubli. Il convient de proposer, en fait, un faire inattentif. Un faire inattentif. Cette expression n'est pas d'Antoine de la Garandrie. Cette expression est d'une philosophe contemporaine qui s'appelle, Nathalie Deprat, et elle a écrit un livre qui s'intitule « Attention et vigilance », publié au PUF. Sachez d'ailleurs que dans ce livre, elle cite à deux reprises Antoine de la Garandrie. Je vais y revenir parce que, me semble-t-il, elle fait une petite erreur d'analyse dans sa lecture de l'œuvre d'Antoine de la Garandrie. Donc Nathalie Deprat, attention et vigilance, j'aime beaucoup cette expression, fait un faire inattentif. Considérons finalement qu'avant de posséder les objets de notre environnement, nous avons d'une certaine façon, nous devons permettre à l'attention de se faire en nous. Et pour ça, la conscience, elle vagabonde, elle erre, elle ne cherche pas à déterminer, elle ne cherche pas à concevoir. C'est là l'expérience d'une passivité primordiale qui renvoie bien à l'idée d'involontaire. Et donc, peut-être que pour se mettre en mouvement de sens, il faut accepter des temps d'inaction. Et c'est ces temps d'inaction qui vont rendre possible ou qui permettent de mieux accueillir les richesses du réel, de favoriser aussi le développement de mes opérations cognitives. Alors voilà pour mon premier temps, je souhaitais justement montrer comment l'inattention peut être un tremplin pour l'attention. Et mon deuxième temps, c'est comment vivre cette inattention concrètement, comment vivre cette inattention. Je vais vous renvoyer à des expériences, à des personnages parfois. Alors, il y a le monde. Et il y a mon corps. Et par ce corps, je suis voué au monde, je suis exposé à ce qui est. Je suis un corps qui vibre, qui sent. Et par ce corps, je me confronte sans arrêt au monde naturel, au monde sensible, au monde culturel, aux choses et aux objets, etc. Par ce corps, j'établis un rapport particulier avec le monde. Je suis un être de possibilités et j'ouvre un champ de possibles. Je me donne un horizon. Ai-je besoin d'éprouver mon corps dans l'espace, de faire mouvoir l'objet avec moi? Ai-je besoin d'éprouver l'objet dans l'espace? Me faut-il parcourir avec mon corps le chemin que suit l'objet, etc., etc. Alors ici, je suis en train de formuler des questions comme si j'étais une conscience réfléchissante, qui connaîtrait parfaitement ce que je suis et aussi qui connaîtrait les multiples façons d'être au monde. Je vous répondrai simplement que je suis en train de suivre les demandes de mon corps. C'est lui, d'une certaine façon, qui s'adresse à ma conscience. Je consens, d'ailleurs. Je lui fais confiance. Je laisse mon corps, d'une certaine façon, s'ouvrir au monde et vivre la présence vive des choses en tant que telles. Car ce qui m'importe, finalement, et il faut permettre aux enfants très jeunes d'être dans ce rapport vivant, ce qui m'importe, c'est que le monde respire en moi, respire à travers moi, hein, et à travers ma sensibilité. Le corps de l'être humain, donc, est sensible, c'est un composé de matière, un composé de différents tissus de matière, hein, et il y a finalement tout un ensemble d'ondes, de chocs qui se produisent, des effets sensibles qui se produisent dans mon corps humain. Il y a des sensations proprioceptives, des sensations extéroceptives, etc., qui finalement sont des sensations par lesquelles je m'éveille justement par lesquelles je m'éveille au monde. Alors, je vais prendre trois figures. Jacques, tout d'abord. Jacques, il est éveillé au sens de son corps par le choc que des sensations proprioceptives provoquent en lui. Il a besoin de se tourner, de se retourner. La proprioception, c'est une sensibilité profonde que le corps a de lui-même. Une sorte de perception consciente ou inconsciente de la position des différentes parties du corps. Et si Jacques marche en allant de droite à gauche sans souci d'aller vers un point déterminé, c'est pour éprouver la force de ses muscles. Mais comment Jacques naît-il au sens de ce qui est ? Il veut éprouver, finalement, ce que ses sensations proprioceptives provoquent sur les choses du monde extérieur. Et c'est ce qui détermine son éveil aux sensations extéroceptives, à ces sensations que les choses du monde produisent sur lui. Et donc c'est dans cet ajustement constant entre sensations interoceptives et sensations extéroceptives qu'il découvre, qu'il s'éveille au sens, qu'il vit sa sensibilité des êtres et des choses. Avec peut-être l'idée que pour Jacques, les choses du monde ont besoin de ces interventions pour être signifiées. Catherine ensuite. Catherine, elle est éveillée au sens de son corps par des sensations extéroceptives. Les choses du monde viennent la heurter sensiblement. Et elle a besoin, pour mouvoir son corps, de fixer son attention, peut-être de façon involontaire, ce sont les demandes de son corps, sur ces choses qui l'ont heurtée. Et c'est par ces sensations extéroceptives qu'elle pourra ressentir de l'intérieur les potentialités de son corps. Si elle fixe son regard sur ce qui est, c'est parce qu'elle en tire son équilibre intérieur. Et si jamais elle est conduite à fermer les yeux, alors elle perd les points d'équilibre qui permettent à son corps de se mouvoir. Elle, Catherine, est-ce qu'elle n'a pas besoin de se nourrir des choses du monde pour découvrir son pouvoir de sentir ? Enfin, Bénédicte, qui s'éveille à son pouvoir de sentir en faisant la jointure entre l'extéroceptivité et la proprioceptivité. Par exemple, en aimant tenir un objet dans sa main. Elle est ce qui fait vivre, elle trouve son équilibre, on va dire ainsi, pardon. Elle trouve son équilibre corporel par la médiation de cet objet, hein, qui lui donne comme un point de repère. Et sans cet objet, elle ne sait plus se mouvoir dans l'espace. Elle perd ses points de repère. Donc il lui faut trouver sans cesse un équilibre entre les formes de sensations proprioceptives et extéroceptives par la médiation de cet objet pour ne pas être pris au dépourvu du sens. Alors ces trois figures, je vous propose, Jacques, Catherine, Bénédicte, reprennent en fait les analyses d'Antoine de la Garandrie dans un texte inédit qui s'intitule « Atmosphère et projet de sens ». La thématique de ce texte porte sur la genèse des projets de sens et sur l'éveil de la conscience au sens. Et les trois figures étudiées sont celles de trois enfants découvrant le pouvoir de marcher. Je ne vais pas développer plus. Mais ces trois figures nous interpellent en ce sens. Qu'elles interrogent en fait l'éveil de la conscience au sensible. Comment la conscience sent-elle qu'elle sent ? La conscience n'a-t-elle pas besoin de s'installer dans une atmosphère de sens particulière ? pour se mettre en activité d'attention. Autrement dit, l'être humain a à favoriser depuis les caractéristiques de son corps les conditions d'émergence de son pouvoir de signification. Il y a tout un consentement à son être corporel qui est requis et qui va déterminer son acte d'attention, justement. On pourrait faire l'hypothèse que Jacques, dans son acte d'attention, est porté par un esprit de conquête. Il cherche à imposer la force du sentant qu'il est sur la réalité du senti, le monde extérieur. Alors que Catherine, elle est portée par l'exigence de témoigner des ressources du réel. Elle est prête à consentir au senti, au détriment de son sentant. Enfin, Bénédicte témoigne par son attention au monde de la richesse de ces deux attitudes. Elle s'efforce de joindre sans cesse les ressources du sentant et du senti. Mais il faut aussi qu'elle fasse quelques concessions pour ne minorer ni les ressources du sentant, ni les potentialités du senti. Il y a un équilibre ici. Alors, je ne suis pas en train de vous détourner, là encore une fois, ou de vous distraire de notre objet de réflexion sur l'acte d'attention. Non, en réalité, ce que j'essaye de vous dire, c'est que l'acte d'attention se nourrit d'une réflexion sur soi. Et pour être attentif au monde, n'est-il pas nécessaire d'être attentif à soi-même et aux potentialités de son être ? Et dans cette attention à soi-même, il semble que nous ayons à faire le vide en nous-mêmes pour mieux renaître à notre être. Voire, il semble parfois nécessaire de se détourner de soi-même pour réactualiser notre rapport au réel. Il faut se déprendre de soi. Et c'est aussi pour ça qu'Antoine de la Garandrie parle de ce souvenir d'oubli. L'homme de conquête, par exemple, s'il veut se nourrir des potentialités du réel, doit mettre entre parenthèses son désir de conquête. Ne pas considérer le réel uniquement comme un champ d'investigation. L'être témoin, s'il veut exprimer ses possibilités d'être, doit accompagner son sens de l'observation d'une implication de son être. Et la personne qui vise l'accord du soi et du réel nous ouvre la voie à l'accueil à la fois à soi-même et à ce qui est. Être moins attentive à soi-même pour être plus présente au réel, ou se distraire du réel pour mieux s'éprouver soi-même, mais aussi se distraire du réel pour mieux renaître aux potentialités du réel, etc. Alors, voyez-vous, ce sont là trois figures intéressantes qui font écho à trois figures qu'étudie Paul Ricoeur dans Le volontaire et l'involontaire. Il parle de figures, les figures du consentement, d'ailleurs. Il y a la figure stoïcienne, la figure orphique en lien à Orphée, au grand poète Orphée qui aimait la nature, et puis la figure eschatologique qui vise une fin. La première, finalement, pour Paul Ricoeur, est le signe de l'orgueil d'une volonté qui se veut infinie, qui se veut infinie. La deuxième montre une volonté prête à renoncer à elle-même, en se perdant d'ailleurs dans l'admiration du réel. Et la troisième traduit pour Ricoeur la grandeur et la misère d'une volonté humaine. Et il a cette très belle phrase, on va retenir cette phrase parce que je vais la réutiliser. Ricoeur écrit « Elle se fait en accueillant ce qu'elle ne fait pas ». J'aime beaucoup cette phrase, on va la reprendre après. Pardon, je n'ai pas fait ici de diapositive pour cela. « Elle se fait en accueillant ce qu'elle ne fait pas ». Alors, estimons une chose. C'est que Antoine de la Garandrie ne porterait pas de jugement moral par rapport à ces trois attitudes et n'associerait pas, voyez-vous, Jacques le conquérant, si on peut dire cela, à un stoïcien orgueilleux, maître de sa volonté. Il dirait plutôt qu'il a son mode d'être, ses raisons d'être, qui méritent justement l'attention du pédagogue. Il lui apprendrait à se retenir quelque peu, à mettre entre parenthèses son désir, son vouloir, mais il ne l'accuserait pas. Mais il est vrai cependant que Antoine de la Garandrie aurait beaucoup plus d'affinité cognitive, ou aurait eu beaucoup plus d'affinité cognitive pour la dernière figure, pour la figure eschatologique, la figure de l'accueil. C'est devenir soi par l'accueil du monde. Ça, je pense que, si vous voulez, que c'est quelque chose qui a toujours marqué Antoine de la Garandrie, devenir soi par l'accueil du monde. Et il nous apparaît finalement que sa lecture phénoménologique de l'acte d'attention penche singulièrement vers cette troisième perspective. On pourrait dire que pour lui, l'acte d'attention se fait en accueillant ce qu'il ne fait pas, finalement. Il se fait, l'acte d'attention, en accueillant le monde qu'il n'a pas fait, en fait. Hein, l'acte d'attention se fait en accueillant ce qu'il ne fait pas, pour reprendre la belle formule de Paul Ricoeur. Donc, il y a mon corps, il y a le monde. Et le monde lui-même est riche de signification. Il constitue le monde, mon horizon de signification, à partir duquel j'entre en relation avec les choses de mon environnement. Et toutes ces choses du monde sont travaillées par des réseaux de signification très denses avec lesquels je dois sans cesse composer. Et ce qui me fait dire d'ailleurs que le monde dans lequel j'apparais est à la fois constitué et constituant. C'est-à-dire qu'il est déjà constitué de multiples significations et puis il me constitue aussi par le langage, etc. etc. Et alors c'est dans ce monde-là finalement que mon pouvoir de connaître doit se déployer, dans ce monde dans lequel je suis immergé. Et ce monde, je vais vous dire, il est riche de potentialités, justement. Un seul regard ne suffit pas. Une seule écoute ne suffit pas. Un seul toucher du monde ne suffit pas. Une seule senteur, etc. D'ailleurs, ce monde n'est jamais appréhendé dans sa totalité. Dans l'activité perceptive, par exemple, le réel se donne par esquisse. Et l'acte d'attention qui prend naissance dans cette activité perceptive se nourrit, voyez-vous, de cette confrontation par esquisse au réel. C'est ce qu'explique Antoine de la Garandrie dans la critique de la raison pédagogique. Il décompose dans ce texte le projet de sens de l'acte d'attention en trois temps, depuis la mise en situation de projet jusqu'à l'expression mentale de la chose visée. Et dans le premier temps, il montre combien l'acte d'attention a comme source des expressions sensorielles relève d'activités perceptives, ce qui témoigne justement d'un rapport vivant entre ma conscience et le monde. Si l'acte d'attention, pour lui, requiert les activités sensorielles et perceptives, c'est parce que, voire la passivité sensorielle, peut-être aussi, mais l'activité sensorielle et l'activité perceptive, c'est parce que l'être humain ne dispose pas d'une intuition originaire, il ne peut pas tout savoir d'emblée. Son intuition est toujours dérivée, il ne voit qu'un seul côté des choses. Et l'élève, devant un savoir, ne voit qu'un seul côté des choses. D'où la nécessité, puisque mon intuition est dérivée, elle n'est jamais pleine et totale, d'où la nécessité pour Antoine de la Garandrie de créer un climat de familiarité entre soi et la chose à connaître. Il y a toute une pédagogie ici de la patience à constituer pour l'enfant, dans son rapport au monde. La précipitation est inutile. Le réel est à déguster. Alors ce réel se déguste, se parcourt, se sent par différentes sensations, et en même temps, si vous voulez, requiert cette activité perceptive. Et sachez que Antoine de la Garandrie a commencé à utiliser le terme d'activité perceptive à partir de l'intuition. Pourquoi ? Parce qu'il a justement voulu montrer que dès la perception, il y a un engagement de mon être, il y a une confrontation de mon être dans le rapport au réel. Alors ce qui pourrait peut-être distinguer la sensation pour lui de la perception, de l'acte de la perception en tant que telle, c'est que dans la sensation finalement je vibre, je ressens, j'éprouve, dans l'acte de perception j'organise déjà ce que j'ai pu éprouver et ressentir. En sachant d'ailleurs que cette perception, pour Antoine de la Garandrie, n'est jamais définitive. Elle suppose d'être enrichie constamment. Et dans cette activité perceptive, il y a déjà les potentialités de l'attention qui sont à l'œuvre. Et pour Antoine de la Garandrie, il faut justement... Il faut montrer que l'attention est constamment reliée à cette activité perceptive, ce qui ne veut pas dire qu'il y aura bien évidemment évocation par la suite. Alors là, je n'ai pas le temps parce que le maître du temps va ici manifester, mais si vous voulez, je voulais évoquer Nathalie Deprat, attention et vigilance, parce qu'elle dit qu'Antoine de la Garandrie a une conception finalement mentaliste et quelque peu rétrograde de l'attention, et je pense qu'elle n'a pas bien vu justement combien pour Antoine de la Garandrie l'acte d'attention s'origine nécessite ce passage par toute cette activité sensible, par ce rapport au corps et par toute cette activité perceptive. Et on n'est pas du tout dans un rapport mentaliste, voyez-vous, pour Antoine de la Garandrie. Alors, à partir de ces activités sensorielles et perceptives, l'acte d'attention trouve ses ressources. Et il y a en effet des projets de sens qui mettent l'attention en mouvement. Projet de sens d'objectivation, d'objectivité, de révélation, de transformation, c'est-à-dire qu'on pourrait retrouver la foi du scientifique, l'amour du poète, l'espérance de l'inventeur, car le réel se laisse percevoir de multiples façons. Et la mise en mouvement de l'acte d'attention implique finalement de dépasser un point de vue exclusif sur une chose à connaître. Comme l'explique très bien Antoine de la Garandrie dans La pédagogie des moyens d'apprendre, toute attention à un objet de savoir, toute attention à un objet de savoir, excusez-moi, se fait sur un fond de non-vu, de non-regardé. Dans l'attention, il y a un excès d'être. L'objet d'intention s'inscrit dans un halo de signification. Par exemple, et je vais rendre ça concrètement. Par exemple, je suis attentif en classe à une leçon de géographie sur les fleuves en France. On propose une diapositive, d'ailleurs, la carte de France, avec ces fleuves. Je peux avoir comme projet de sens de revivre mentalement la carte qui présente ces fleuves. Mais, l'attention ici, le perçu, et ce que je perçois, et l'attention que je mets en œuvre, se fait dans un cadre académique, une image projetée sur un écran, avec un enseignant qui fait des mouvements pour signaler la présence des différents fleuves, si bien que mon activité attentionnelle ne se centre pas uniquement sur l'objet que je cherche à signifier, mais se nourrit, en fait, d'un contexte auquel je ne prête pas pourtant directement attention. Mon intention de signification est travaillée ainsi par l'involontaire. Et si je me rappelle de ma leçon de géographie quelques jours plus tard, il est possible que ces éléments de contexte auxquels il me semblait ne pas être attentif, parce que j'étais plutôt attentif à la carte et les fleuves en France, il est possible donc que ces éléments de contexte me reviennent en premier et favorisent ainsi la réactualisation de mon attention passée. Comme quoi l'involontaire détermine le volontaire. On pourrait dire que dans mon acte d'attention, je suis dans une attente, j'appelle le réel. Eh bien, on pourrait dire que la réponse du réel excède finalement mon appel, excède ma visée de sens. De plus, l'acte d'attention ne se réduit pas à la simple présence. C'est pour ça, d'ailleurs, vous voyez, ce n'est pas une centration sur un objet en tant que tel. Le projet de sens d'attention procède par esquisse. Parce que la chose, finalement, qui provoque mon attention ne livre pas immédiatement toutes ses richesses. Il y a des variations temporelles ici qui se mettent en place. Mon attention à l'objet présent se constitue à l'aide de souvenirs de perception et d'évoquer l'attention, voire d'autres évoqués. Tiens, mais cet objet n'a-t-il pas déjà été perçu? Ou ne ressemble-t-il pas à un objet autrefois perçu ou un objet évoqué? Il y a donc dans l'acte d'attention de la rétention, c'est-à-dire, non pas dans un sens négatif ici, c'est-à-dire que je fais appel à des attentions du passé, à des évoqués du passé, à des perceptions du passé, qui affluent sans cesse en moi et qui viennent nourrir mon acte d'attention présent. De même, mon attention à l'objet anticipe. Il anticipe l'enrichissement de cette attention actuelle. Je devine que mon attention, justement, va se nourrir d'autres aspects. Comme si mon acte d'attention était également, non pas simplement rétention, mais pro-tension. L'acte d'attention ne se réduit donc pas à la stricte présence de la chose à connaître. Il est à la fois passé, présent et futur. Il a donc, cet acte d'attention, une dimension temporelle qui ne relève pas directement de ma volonté consciente et qui pourtant permet l'activation de mon projet de sens en tant que tel. Et c'est à partir de là, pour Antoine de la Garandrie, que, et à partir de tous ces éléments, de la prise en compte des potentialités du monde, de la potentialité du réel, et de mes potentialités cognitives, que je vais pouvoir finalement faire vivre cet acte d'attention. Et qu'est-ce que c'est que faire vivre cet acte d'attention? Finalement, c'est de développer idéalement l'objet en moi. Hein. Je signifie l'objet suivant ses caractéristiques, mais pour ça, il faut que je... ses caractéristiques matérielles, ses caractéristiques culturelles, mais pour ça, il faut que je laisse du temps à la respiration attentionnelle, et aussi en fonction de mes propres caractéristiques, est-ce que j'ai besoin davantage de signifier à partir du temps, à partir de l'espace, à partir du mouvement. On pourrait, là, ici, nourrir, montrer combien tous ces éléments viennent nourrir l'acte d'attention. Alors, en conclusion, oui, je dirais que s'engager dans l'acte d'attention requiert, c'est ce que j'ai voulu vous montrer, un désengagement. S'oublier soi-même pendant un temps. Accepter que le réel puisse infiniment nous dépasser. Savoir se détourner de cette volonté de scruter le réel à tout prix et de le déterminer pour mieux vivre justement l'attention par la suite. Comme pour se mettre au service de l'acte d'attention. Et aussi se rendre disponible aux richesses du réel. Et aussi se rendre disponible à soi-même et aux formes de mon vouloir. Et il y a donc l'expérience d'un vide qui me semble, voyez-vous, nécessaire. Et accepter ce vide de l'attention, c'est justement refuser de l'enfermer dans une forme de finitude. L'attention ne doit pas être l'expérience d'une clôture, mais l'ouverture à des infinis de sens. C'est en ce sens où on pourra retrouver la liberté. L'acte d'attention ouvre des horizons à mon pouvoir de connaître, ouvre des horizons quant aux potentialités du réel. Il est donc l'expérience d'une liberté de connaître en acte qui va pouvoir s'exercer par des variations évocatives multiples. Je vais pouvoir tester, jouer avec cet objet d'attention. Il y a là des horizons de créativité, de réflexion, etc., qui peuvent se mettre en œuvre à partir de cet acte d'attention. Ne jamais croire finalement que mon acte d'attention a épuisé toutes les ressources du réel. Il y a des promesses de sens, et l'acte d'attention doit faire vivre ces promesses de sens, et laisser d'ailleurs en disponibilité d'autres promesses de sens. Alors, je vais terminer par deux phrases. Tout d'abord, je ne sais pas qui il est, c'est Odile qui m'a donné cette citation qui se trouve dans la revue Esprit qui était consacrée, il est professeur à Sciences Po, voilà, qui était consacrée à l'attention, je crois, hein, une partie, éloge de la disponibilité. L'attention n'est finalement que l'acte presque involontaire de cette aptitude à être disponible. Ouais. Donc ça traduit bien ce que j'ai voulu vous dire aujourd'hui. Et cette autre citation, puisqu'il y a toute une exigence finalement d'humilité par rapport à soi-même et par rapport au réel, et dans cette confrontation entre soi et le réel, c'est cette citation de Simone Veil dans La pesanteur et la grâce, dans le domaine de l'intelligence. La vertu d'humilité n'est pas autre chose que le pouvoir d'attention. Donc je crois que ça traduit encore davantage ce que j'ai voulu ici vous exprimer en tant que tel. Et je termine ainsi ma distraction et je vous remercie de votre attention, peut-être inattentive parfois.